Bonjour, c'est Françoise de Paris. Au dernier Café Repère, Anne-Marie, qui travaille au Théâtre de l'Est parisien, est venue nous présenter une pièce qui s'appelle « Au nœud » de Dominique Witorski. Et samedi dernier, nous nous sommes retrouvés une dizaine du Café Repère à aller voir cette pièce. Alors, on voulait vous en informer pour que vous sachiez que, voilà, un peu quoi ça peut mener. Là-bas, si j'y suis, à se retrouver avec un ticket de théâtre avec écrit « Là-bas, si j'y suis » dessus, pour voir une pièce d'un auteur vivant, et non seulement vivant, mais jeune, qui en plus s'adresse à Nicolas Sarkozy sur son site en des termes qui finalement nous enfin, moi, me conviennent plutôt bien, et qui appelle sa pièce « Au nœud », ce qui signifie « sang » en allemand. Et à l'époque des sans-papiers, des sans-logis, des sans-domicile fixe et des sans tout ce que vous voudrez, c'est forcément un sujet d'actualité. Voilà. Et donc, je voulais remercier Anne-Marie d'être venue, enfin, elle le sait déjà, et vous dire un petit coucou. Au revoir.
Il souffle un vent glacial sur Calais. Cette nuit, il a gelé à moins 3 degrés. La semaine dernière, il a neigé. La neige est prévue sur le Pas-de-Calais pour cet après-midi. L'hiver est toujours là, nous dit le journaliste de la météo. Mother, very cold, very cold. Ce jeune Irakien est frigorifié. Pas de bonnet, pas de gants, pas de cache-nez. Il porte une légère veste en jean. Cette Africaine vient d'accoucher d'une petite fille d'à peine 2 kilos, qui est entre la vie et la mort à l'hôpital de Calais. Comment mener à bien une grossesse quand on vit caché dans les bosquets, sous-alimenté, traqué par la police? Cet Afghan, encore, est en France depuis 2 ans. Il a créé un réseau d'amitié autour de lui. Il parle français maintenant. Il vit de petits boulots, mais il vient de recevoir son invitation à quitter le territoire. Mon appel est pour qu'on arrête de taire et de banaliser ce drame humain qui se vit chaque jour à Calais pour quelques 300 personnes depuis la fermeture du camp de Sangatte il y a plus que 3 ans. Donc je vous invite chaque premier vendredi du mois à notre manif de soutien avec les migrants, pour qu'il y ait plus d'humanité, plus de respect pour ces gens-là. Je vous invite aussi à l'Alhambra, au cinéma, pour soutenir la projection du film La Blessure à 19h30, en présence de la CIMAD et du GISTI. Vous pouvez aussi nous soutenir, le collectif C'est Sûr. Voilà, merci de votre écoute. J'espère que mon appel sera diffusé sur les ondes parce qu'il faut vraiment prendre conscience de ce drame. Voilà.
Voilà, on est à Old Delhi, dans le vieux quartier, dans le souk de New Delhi, et on est sur la route du retour. On vient du Bangladesh et c'est vraiment un pays à découvrir, le Bangladesh, pour tous ceux qui lutte pour le libéralisme, pour le libre-échange, pour l'ouverture des marchés. Venez au Bangladesh voir votre rêve en cours de réalisation et même grandeur nature. Vous qui, en France et dans ce genre de pays, rencontrez tant de réticences, tant d'adversités et tant d'archaïsme, le Bangladesh est au libéralisme ce que la Thaïlande est à l'amour. Prenons par exemple le CNE, le CPE, ces histoires de contrats. Aucun problème comme cela au Bangladesh. Des contrats, il n'y en a pas. Les ouvrières qui sont mortes, brûlées dans l'incendie de Chittagong jeudi soir, bien évidemment qu'elles n'avaient pas de contrat, pas plus que les 2 millions d'ouvriers, essentiellement des ouvrières, de la confection. Pourquoi faire des contrats ? Inutile, bien évidemment. Le trou de la sécu. Essayez de parler du trou de la sécu à des Bangladais. Ils vous regarderont avec des yeux ronds. Il n'y a pas de trou de la sécu au Bangladesh. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de sécu du tout. La retraite, même chose. Retraite par capitalisation ou retraite par répartition. Les Bangladais rigolent. De retraite, il n'y en a pas. La délinquance des jeunes, les quartiers qui brûlent, les voitures qui brûlent, tous ces jeunes délinquants, ethniquement délinquants, aucun problème au Bangladesh, puisque les enfants travaillent. Dans la confection, pour rester dans le domaine de la confection, 2 millions de travailleurs, il y a entre 5 et 10% d'enfants qui travaillent, c'est-à-dire, rien que dans ce secteur-là, entre 100 000 et 200 000 enfants qui travaillent. Vendredi, à l'hôpital de Chittagong, nous avons vu une fillette de 13 ans qui cherchait sa petite sœur de 11 ans. Donc, les enfants travaillent. Et pendant ce temps-là, eh bien, il n'y a pas de délinquance. Quant à l'écologie, oui, Dakar est la ville la plus polluée du monde, mais il y a beaucoup de vélos, les rickshaws sont en vélo, et oui, c'est la force du muscle et la sueur humaine, on le sait bien depuis la colonisation française, la sueur humaine pollue très peu. Bref, amis du libéralisme, amis du libre-échange, venez au Bangladesh voir votre rêve réalisé. Voilà, ça pourrait être le début d'un guide qui pourrait s'appeler Lobby Planète, où ainsi les amis du libre-échange pourraient, à travers le monde, eh bien, retrouver les endroits dont ils rêvent, les endroits où il n'y a plus aucun de ces problèmes, comme ceux que l'on rencontre en France ou ailleurs. Existe-t-il un rapport entre ce que je viens de vous dire et ce que nous allons entendre, ou plutôt réentendre aujourd'hui, les aventures d'un cadre jetable? À vous de trouver la relation qui peut exister entre ces deux sujets. C'est après les messages que voici, qui suivent, et que vous avez laissés sur le répondeur de la base, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour, je m'appelle Gaël, je fais partie du comité de soutien des Roms d'origine bulgare de Bagnolet. Il y a eu une décision importante au conseil municipal. Il y a plus d'un an, il y a eu un incendie sur un bidonville concernant 80 Roms d'origine bulgare. Ils ont été logés par le maire dans ce qu'on appelle le château de l'Étang, un ancien centre de loisirs à Bagnolet. Ça fait donc un an qu'on travaille ensemble en tant que comité de soutien avec des habitants de Bagnolet, puis avec quelques élus. Donc le groupe PC et les Verts ont eu le courage de voter pour un projet de foyer d'hébergement durable. C'est assez exemplaire, assez exceptionnel, c'est une action de solidarité importante à soulever, à souligner. Le PS a voté contre parce que ça fait un an qu'ils attisent les haines et alimentent les rumeurs en déclarant encore une fois on ne peut pas accueillir toute la misère du monde dans un des derniers textes. Donc on voulait soulever voilà cette espèce de position offensive d'une majorité d'élus hier à Bagnolet. On va pouvoir maintenant interpeller les pouvoirs publics d'une manière un peu plus forte. Et puis c'était important qu'il y ait un début de mobilisation et une force locale entre les habitants et les élus pour soutenir ce projet d'hébergement. Voilà, bah écoutez, merci. Et puis, si vous avez besoin de plus de renseignements, bah vous pouvez me contacter.
C'est Daniel de Saint-Ans-le-Châtel, dans la Loire. Je t'appelle parce que j'étais vendredi à Lyon, chez un client, en plein centre de Lyon, sur les quais du Rhône. Et puis, on a entendu des sirènes dehors, une sirène de gendarmerie. Alors, on a jeté un petit coup d'œil. Effectivement, il y a des motards qui arrivaient avec les gyrophares, les warnings, les sirènes hurlantes, et qui faisait dégager la circulation, qui faisait coller tout le monde contre les bords, qui en neutralisait le feu rouge. Alors on pensait voir arriver quelqu'un de la France d'en haut, quoi, tu vois, un ministre, un truc comme ça, mais pas du tout. Non, c'était des autobus avec des petits panonceaux sur les vitres marqués presse. Pas pressé, hein, presse. Voilà, bon, visiblement, c'était des journalistes qui redescendaient de la Dombe. La Dombe dont personne ne parle jamais, puis d'un seul coup qui est sous le feu de la rampe. Alors, ils étaient pas plus pressés que moi, je pense, mais visiblement, je me suis rendu compte que visiblement, ces gens-là vivaient quand même pas comme nous, quoi. C'est un petit peu dommage, quoi, parce qu'ils sont censés nous relater la vérité, la réalité. Ben, je crois qu'on en est loin encore un coup, quoi. C'est les petits détails comme ça qui agacent, au final. Voilà, c'était tout. Eh ben, salut, Daniel, et puis continue, hein, surtout, lâche pas l'affaire. Salut à tous.
C'est un message pour le repère de là-bas, si j'y suis, donc de Ploubalet. Ploubalet, c'est entre Saint-Malo, Dinard. Donc on vous attend, tous plus nombreux à chaque rencontre. Donc la prochaine réunion, c'est demain soir, c'est le mardi 28 février à 20h. Voilà, à bientôt.
Vous connaissez ? Un tube.
C'est passé.
Bonjour. Vous êtes en communication avec le répondeur des Acédic.
Un cadre qui est au chômage, là.
Elle fait comme les autres, ils cherchent du boulot. Pour là, ils vont à Taïwan, ou à... Je sais rien, en Roumanie, ou en machin. Enfin, bon, il paye bien, il paraît.
Mais lui, il n'a pas de pré-retraite, même à 55 ans, quoi. Il n'a toujours pas cotisé assez.
Non, maintenant, il faut tout cotiser 40 ans, de toute façon, pour avoir le droit à quelque chose. D'un côté, ils te disent, il faut partir en retraite de bonheur, c'est plus bon à rien. Et d'autre côté, on te dit, faut que tu fasses 42 ans. Mais on te laisse pas. Alors, on fait quoi?
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas, et j'y suis avec Olivia Gesbert. Itinéraire d'un cadre jetable.
Flight number 2, arriving from New York.
Il y a des jalons dans l'année qui sont terribles. Le sentiment de ne pas en faire partie des autres et du monde, d'être à part, d'être derrière une grille et d'observer ceux qui vivent, qui sont en activité et qui ont droit à leur week-end, qui ont droit à leur jour férié, qui ont droit à leur jour RTT, qui ont droit... Moi, j'ai pas tout ça. J'ai pas de vacances.
Quand vous avez passé ce diplôme, vous auriez imaginé un jour que vous pourriez être dans cette situation-là?
Oui, mais sans en connaître ni l'intensité, ni la douleur, ni faute d'expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience. Mais elle n'est pas vendable, celle-là, malheureusement.
Que vous rappelle le 29 mai 2005. Le quoi? Le 29 mai 2005. Vous vous rappelez? Non. Effectivement, on se demande ce qui s'est passé le 29 mai 2005 de si important que ça. Oublié, balayé, un petit coup d'ardoise magique. Et pourtant, on sait bien que ce ne sera pas sans suite. Et ça n'est pas sans signification, ce qui s'est passé ce jour-là. Non. Le 29 mai 2005, une majorité de Français ont dit non au projet de constitution européenne. Mais au-delà de ça, on sait bien qu'il y a une signification, une photo qui a été donnée ce jour-là de la société française et des malaises et du malaise de cette société française. Le hiatus, vous vous souvenez quand même, dans les jours qui ont suivi, on en a parlé un petit peu, depuis on a oublié, mais enfin dans les jours qui ont suivi, on en a parlé. Le hiatus était très important entre les médias, ce que disaient les médias et ce que les Français ont choisi de voter. Pourquoi? Parce que les gens des médias défendaient une idée, leur idée, pas leurs idées, mais leur idée. Leur idée, c'était l'Europe, oui à ce projet de constitution. C'était leur idée. Et des Français ont voté oui parce que c'était aussi leur idée. Et d'autres Français ont voté non parce que c'était aussi leur idée. Mais la majorité qui a voté non, c'était pas seulement à cause d'idées, pour des raisons d'idées, c'était à cause du vécu de chacun, tout simplement. À cause de ce que chacun vit dans sa vie. Et aujourd'hui, il y a un mot qui se banalise, qu'on entend partout, une expression plutôt qu'on entend partout, qui est insécurité sociale. Insécurité sociale, ce qu'il y a au cœur, au fond, au creux, qu'on ne veut pas voir, bien sûr, de notre société, c'est la question de l'emploi, la question du chômage. Qu'on le veuille ou non, c'est quand même bel et bien ça qui est au cœur, au creux, au fond de notre présent. Voilà pourquoi le petit livre de Marie-Annick Terouin-Auville a un tel retentissement. Vous allez voir, itinéraire d'un cadre jetable. C'est simplement ce qui leur est arrivé à cette petite famille. Encore une fois, de ceux qui sont gâtés, de ceux qui font envie, de ceux qu'on voit dans les réclames, qui sont l'exemple pour ceux qui sont en dessous et ceux qui sont en dessous, peut-être rêvent-ils de ces belles situations, avoir une situation. Et on va voir ce que ça fait quand on tombe de si haut. C'est notre sujet jusqu'à 18h dans la Basse-Vie.
Toute ma vie jusqu'au samedi, moi j'ai fait tout ce qu'on m'a dit. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que de mettre un pas devant l'autre. C'est vrai, j'ai jamais rien fait d'autre que laisser passer tous les autres. J'ai pas fait de vagues et là je me dis, j'étais de ce qu'on obéit. J'ai pas fait de vagues et j'ai comme on dit, jamais rien dit. Moi j'ai fait que suivre les bœufs, pas fait l'anguille, j'ai fait la queue. J'avais pas la haine et le cœur léger. J'ai pas nagé, j'avais pas la haine, oh, je sais que j'ai jamais plongé. D'ailleurs dans les vagues se faufilaient tous les câbles qui m'ont roulé. Oui dans les vagues, moi j'ai pas vu ceux qui m'en voulaient. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. De tasse en tasse, j'ai tout avalé, sans dire la note est salée. J'ai dit c'est bon, j'ai dit bonsoir, d'une note pleine d'espoir. J'ai dit c'est bon et c'est dans le noir. J'ai vomi dans un mouchoir pour mon silence et pour mon absence. J'en ai reçu des récompenses, oui en guise de messager. Moi j'ai dit tout va s'arranger. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. J'ai lâché ceux qui me disaient, n'oublie jamais qu'on est visé. N'oublie pas qu'on peut être ici, assis sur la branche qu'on scie. N'oublie pas qu'on peut être ici, rue des soucis. Tendu la main, les gens le savent, quand on me disait c'est pas grave. Quand on me disait t'en fais pas, ici tout se règle au compas. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change? Rien.
Marie-Annick Auville et accessoirement Tervin, c'est mon nom de jeune fille, prof en lycée professionnel. J'aurai 51 ans dans 8 jours et j'enseigne l'anglais. Et j'ai écrit un tout petit bouquin pour essayer d'aider mon mari dans son problème de chômage. Je suis mère de 4 enfants, c'est mon statut. Mère de 4 enfants, femme de Pascal et non pas femme de l'ingénieur. Et voilà. Alors vous, c'est Pascal?
Moi, c'est Pascal, mari donc de Marie-Annick. Donc, ingénieur et 55 ans, travaillé dans des groupes internationaux pendant 25 ans pratiquement, et puis depuis 5 ans, tenté l'aventure en PMI, PME, avec pas mal de problèmes, dont celui de, justement, de transition professionnelle un peu trop nombreuse.
On est des gens ordinaires et il nous arrive un truc que...
Voilà. Ce truc, c'est quoi? Le chômage?
Ah ben, ce truc, c'est le chômage, évidemment, auquel on avait pensé, mais pas avec cette acuité, pas avec 4 licenciements, et pas avec avec cette trouille permanente de pas y arriver, quoi. Et quand on fait 4 enfants à notre époque, c'est qu'on a un projet de famille, et quand on se dit qu'on pourra peut-être pas aller au bout, c'est terriblement difficile. Enfin, et on en a marre d'être exclu, oui. Moi, j'en ai marre, oui. Franchement, moi, j'en ai marre. Hein. Puis j'en ai marre de voir mon mari rien faire, alors qu'il a besoin et rien faire, j'entends. Ne pas aller travailler, ne pas mettre son costume le matin, ne pas prendre sa voiture. Mais bien sûr, il fait plein de choses, bien sûr.
C'est Pascal qui silencieusement fronce du sourcil, hein, quand on dit rien faire.
Il ne fait rien, c'est pas du tout ça. Hein.
Alors, c'est pas le goulag, hein. C'est même pas la Courneuve, là où on est au contraire, c'est très joli, c'est à 20 km de Lorient, une petite ville qui s'appelle Linguidic. Il faut prendre la 4 voies en direction de Vannes. À Linguidic, il y a 6500 habitants. Il y a un taux de chômage de 9,7%, donc un petit peu en dessous de la moyenne nationale. Et la petite famille, là où on se trouve, vit dans un cadre tout à fait agréable. C'est une jolie maison rose avec de jolis volets blancs à deux étages. Une location quand même à 950 euros chaque mois. Donc, voilà, enfin, vous passez là, vous dites, ben voilà, ça, tout va bien. Sauf que il y a ce petit livre écrit par Marie-Annick avec qui on vient de faire connaissance. Et si j'ouvre le petit livre de Marie-Annick, juste le prologue. Je veux dire les mots qu'on a soulignés comme ça, vous savez, avec un marqueur. Hop, on a souligné un certain nombre de mots. Je vois blessure, exclusion, angoisse, peur. Hein, juste quelques mots comme ça. Je vois votre vie bascule. Et je vois là aussi pour des enjeux financiers. Je découvre la haine. Simplement quelques expressions comme ça, tout à fait saugrenues il y a peu de temps encore dans la bouche et l'esprit de gens de ce milieu-là, disons, c'est-à-dire en un seul pour dire le plus rapidement des classes moyennes. Or, ces classes moyennes, eh bien, sont de plus en plus touchées, de plus en plus effrayées par ces pertes d'emploi. Combien de temps un système pourra fonctionner de cette façon? On ne sait pas du tout. Mais j'emploie le mot système parce que dès qu'il s'agit de se tourner vers les responsabilités de cette situation, on emploie des mots comme système, comme pouvoir, comme société. C'est de la faute au système, c'est de la faute au pouvoir, c'est de la faute à la société. Et c'est très commode parce que c'est des entités floues, hein, système, pouvoir, société. En fait, il s'agit d'une suite d'enchaînements de petites responsabilités, mais pas totales. Les uns et les autres, nous n'avons qu'un petit bout de vision de ce qui se passe. Chacun est un petit chaînon, hein, d'un ensemble qui fait qu'il y a le nombre de chômeurs que vous savez, avec tous les soupçons que nous avons sur ce chiffre du chômage. Mais là, il ne s'agit pas de chiffres de chômage, il s'agit de chômeurs, il s'agit du chômeur lui-même. Comment il vit, comment sa famille vit avec lui, ce qu'il ressent. Et c'est les mots qui reviennent dans ce texte court: blessure, exclusion, peur, angoisse. Et un autre mot que j'ai oublié d'indiquer: droit au travail.
Ben, ça fait peur, oui, parce que ça fait une bouche de plus à nourrir en quelque sorte, quoi. Et qui ne rapporte pas. Pardon. C'est un ensemble, c'est le problème de la société, c'est pas le problème du chômeur lui-même, c'est le problème de la société. Ils ne doivent pas prendre ça comme une tare, c'est un accident de parcours.
Est-ce qu'ici, par exemple, la ville est assez touchée aussi par le chômage? On en parle beaucoup.
Bon, on n'est pas écarté. Hein. C'est pas parce qu'on est à 25 km de Lorient, ville à vocation rurale, qu'on n'est pas touché par le chômage non plus. Maintenant, les gens veulent travailler et sont obligés d'aller là où ils travaillent. Quoi. Donc, on ne trouve pas forcément à proximité de son domicile. Quoi.
Vous avez des gens dans votre entourage qui sont ou qui ont été au chômage pour des périodes
Oui, inévitablement. Oui. Oui, oui.
4 licenciements, puis là, on arrive à plus d'un an de chômage. Ouais, moi, je trouve que c'est de l'héroïsme. Ouais. Bah, de supporter ça, de voir sa femme aller. Je veux dire que tous nos schémas se cassent la figure, quoi.
Nous, c'est notre chien, ça.
99, fin 99, 9 et 5, 14, 9 et 6, 15, ça fait 6 ans, quoi. Ah, ça fait 6 ans, ouais.
Alors, chronologie des événements: licenciement, chômage, ouais. Nouvel emploi, déménagement, mise à pied, licenciement, ouais. Chômage, nouvel emploi, déménagement, licenciement. Chômage. Septembre 2005, où est-ce qu'on en est?
Septembre 2005, un an de chômage. Après une tentative d'essai dans une entreprise située à 700 km de distance, qui n'a pas donné satisfaction.
Donc maintenant, ça fait plus de 5 ans que toute l'histoire a commencé quelque part, cette histoire-là.
Exactement.
Alors les gens rigolent parce qu'on déménage tout le temps, mais enfin, là, ça devient de moins en moins drôle, parce que là, on a vendu la maison, on se retrouve en location, très agréable au demeurant, mais bon, enfin bon, ça, on a l'impression de ne pas en voir le bout quand même. Hein. On a l'impression de ne pas en voir le bout. Et on a exactement 2 ans devant nous.
Deux ans, c'est quoi cette date? Ouais.
Bah, c'est la date de couverture des ACDIC. Hein. Si Pascal ne trouve pas dans 2 ans, il n'aura même pas le droit au RMI parce que je travaille. Sachant le salaire des profs, bon, avec des mots machins, c'est pas la misère. Hein. On ne sera pas dans un logement insalubre, mais ce sera probablement une demande de logement social. Des choses que nos amis ont vachement de mal à comprendre. Quoi. Parce que de tout le groupe d'amis des ingénieurs qui ont fait la même école que Pascal ou de ceux qui ont vécu avec nous, ou en même temps que nous, on est les seuls touchés par cette merde, quoi. Avec deux mômes étudiants, 1500 euros par mois, c'est pas bizarre, ça.
1500 euros, c'est votre salaire ?
C'est mon salaire, ouais. Mon salaire mensuel.
Et là, en ce moment, vous avez quoi de plus ?
Pascal touche, en effet, des ACDIC intéressants. On est à 2600 euros d'ACDIC, hein, plus ou moins 1500. Et dans 2 ans, c'est fini, quoi. Je veux dire, c'est ça. Le problème, c'est le mur, quoi. Le problème, c'est le mur. Alors, évidemment, on va avoir du mal à faire pleurer dans les chaumières avec des revenus qui sont relativement confortables, mais qui sont complètement limités dans le temps, hein.
Je sais pas comment faire. 2005, c'est ça, vous dites?
2006 d'ACDIC et moi 1500. Mais c'est vrai que...
C'est juste pour comprendre aussi, quand on parle du moment où ça bascule, avant à peu près le salaire d'un cadre, c'est combien?
C'est une réduction de 50% de mon salaire.
D'accord, donc environ 5000 euros, quoi.
Oui,
ouais, c'est ça.
Ouais. Ça suppose un chamboulement complet dans la structure, je dirais, financière, familiale.
Du café.
Pas si malheureux, on entend ces mots qui sont en train de retentir dans toute la France qui écoute la basse issue en ce moment. Ils n'ont pas de quoi se plaindre. La question n'est pas là, la question c'est qu'on essaye de vous montrer aux uns comment vivent les autres, d'abord, tout simplement. Mais il faut comprendre aussi que ça gagne, cette inquiétude, cette angoisse gagne. Il faut comprendre aussi que c'est pas fini, on n'est pas, comme disait un auditeur l'année dernière, au mois de mai, enfin au début de cette année, on n'a pas le cul sorti des ronces. Quand on voit ce que souhaite, avec acharnement, avec entêtement, le MEDEF, c'est-à-dire la transformation du code du travail, enfin ça doit être, il doit y avoir le mot progrès là-dedans, probablement, ça doit être présenté de cette façon, la remise en cause de la couverture sociale, le régime d'assurance chômage, voilà un frein à l'emploi, la suppression du SMIC, voilà ce qu'il faut évidemment pour améliorer la situation. Alors que pendant ce temps-là, on délocalise. L'exportation, par exemple, de textiles chinois va entraîner la suppression de 15 à 20 000 emplois. Toujours selon le MEDEF, 15 à 20 000 emplois avec l'exportation de textiles chinois. 24 000 emplois seront supprimés selon la CGT. On n'est pas tout à fait d'accord avec le MEDEF sur ce point. On voit que ça continue. Et dans l'élan général, les cadres, ceux qui étaient gâtés, ceux qui nous encadraient, sont à leur tour touchés aujourd'hui.
Elle est belle, cette maison, quand même.
Ouais, elle est jolie, ouais. Elle est jolie, c'est une location au centre de Bretagne, dans les terres, qui nous coûte beaucoup moins cher que l'achat qu'on avait fait sur la côte, mais qui coûte le même prix qu'un F3 en centre de Paris, quoi. Avec l'avantage des cloches, c'est vraiment le quart pour la messe, parce qu'on est en Bretagne. Ça
marie bien avec... Donc, j'ai fait
une tarte paysanne, tomate, moutarde, gruyère. C'est franchement bon. Et normalement, Olivia devrait adorer.
À table. Voilà. Je n'ai plus qu'un mot à dire. Où est la place du chef?
Là. Tiens, moi j'ai les biscuits, t'es le chef, tu coupes?
C'est assez cool?
Non, 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 c'est pas assez cool. Je me suis dit, je vais pas les faire cuire assez.
Ça va bien à la radio, le coupage de tarte à la tomate.
Eh ben, tu sais, c'est la première fois que tu verras sur France Inter un coupage de tomate, de tarte à la tomate.
Ouais.
Non, peut-être pas la première fois, mais...
Vous, Pascal, vous êtes normand?
Je suis
normand.
Oui.
Ah oui, pur
sûr. Ah oui.
Et vos parents, justement, vos parents, ils c'est quoi?
Je viens
c'est
de...
C'est compliqué, les parents, Pascal.
Oui, c'est assez compliqué. C'est en fait d'une famille côté paternelle, d'une famille d'industriels. Côté maternel, agriculteur, les grandes exploitations agricoles de Normandie, famille nombreuse, nous étions sept. Ensuite, mon père est revenu, vu les difficultés en agriculture, est revenu comme technicien dans l'industrie dans Normandie, puisque entre-temps, on était reparti dans le Midi. Voilà. Et puis ma mère s'est mise, avec ses nombreux enfants, à travailler en tant que salariée, à 45 ans, je pense, à peu près. S'est mise à travailler aux allocations familiales, ce qui était un exemple formidable, et en passant des concours, etc. Donc quelque chose d'extraordinaire.
Et vous, Mariani, vos parents?
Moi, j'ai été très privilégiée, parce que j'avais un père qui était médecin spécialiste. Moi, socialement, le problème est réglé. J'ai aucun problème de statut social. Ça ne m'intéresse pas, quoi. Parce que je pense que j'ai été... parce que j'ai été gâtée, certainement, au départ. Et j'ai pas de revanche à prendre. Mes parents m'ont donné tout ce que j'avais à avoir. Ils m'ont permis de faire des études. Ce que je voulais pour mes enfants, maintenant, j'espère pouvoir aller au bout de... N'est-ce pas, Baptiste? C'est pas gagné. Et bon, il faudrait demander à Baptiste.
C'est pas perdu non plus.
C'est pas perdu, certes, mais.
Et alors, vous deux, vous réagissez comment?
Ah, bah ouais. Et Baptiste, tu
me je pas. Sais que devant les parents, c'est pas évident, mais.
Mais moi, ça m'intéresse.
Pas comme papa, en tout cas. Ça m'a. Non, mais moi, ça m'a. D'abord, ça m'a cassé quand même.
Ouais.
Notamment, depuis la seconde, j'ai déjà failli refaire ma seconde, ma première, ma terminale. Ça bloque maintenant, mais il fallait bien. Mais je me dis pourquoi, je me suis dit, peut-être moi maintenant, mais pourquoi faire des études alors que je suis pas sûr de plus tard quand je serai casé, enfin casé, quand j'aurai une famille, tout ça. Non, je suis pas sûr de que ça donne quelque chose quoi sur le long terme.
Tu t'es dit à quoi bon faire des efforts quoi?
Oui, pour plus tard, si ça sert pas forcément au bout d'un moment.
Il a des bons diplômes, mais finalement.
Mais... Voilà. Non, là ça va mieux parce que. Je dirais pas on s'habitue, mais,
oui.
Mais plus ou moins, bah si, un peu. Justement, j'ai peur de ça, qu'on croit, par rapport à ce que maman disait ça aussi, qu'on pense que c'est de sa faute, que c'est... pourquoi, comment, il n'y a pas de fumée sans feu, ça... Ça, j'y ai pensé, on me l'a jamais dit, mais peut-être qu'on l'a pensé, mais... non, on me l'a jamais dit, non.
Voilà. Si on mangeait cette tarte, on reparlera de tout ça après, quoi.
Je vais peut-être la
qui va être fin, on va la mettre.
Mais non, mais elle sera très bonne froide, je suis sûre.
Ah non, non, non.
Oh,
non,
non mais là, elle est.
On parlera de ça après. On parlera de ça après. On parle toujours de ça après. C'est vrai que. Si vous écoutez la radio pour vous changer un peu les idées et vous détendre, c'est raté, c'est complètement raté. Parce que ce dont nous parlons là, nous entendons parler là, c'est l'angoisse qui soigne de partout, qui imbibe tout. Cette insécurité sociale, c'est la hantise de perdre son emploi, c'est la honte d'avoir perdu son emploi, c'est la culpabilité de ne pas trouver l'emploi. Et là, c'est pour une fois, c'est pas des sociologues, des économistes, des éditorialistes qui ont écrit là-dessus. C'est simplement Mariani, que vous entendez, qui est l'épouse de Pascal, qui dans 60 pages a raconté comment ça se vit dans une petite famille. Elle dit c'est le témoignage rempli d'amertume et de ressentiment d'une famille blessée par l'épreuve du ou plutôt délicieux
licenciements et périodes de chômage successifs. Elle finit en disant « Ceux qui l'ont subi s'y reconnaîtront, les autres les découvriront ». Il se peut que beaucoup, effectivement, c'est pas seulement une découverte, c'est quelque chose que tous nous redoutons et qu'il faudra bien un jour voir vraiment tous de face.
Bon, on va passer à table.
On va parler un peu de vous maintenant.
On sent pas d'activité, peu d'annonces, mais en cours de projets est quasiment vide.
C'est le classeur blanc, c'est
la gestion de ma recherche, hein. Récente, disons, hein, parce qu'il y a évidemment un passé.
Le bleu, c'est les réponses, hein. Des offres qui n'ont pas forcément fonctionné.
Essentiellement des offres, là.
Alors, le CV, justement, je vois que, par exemple, là, le vôtre a été déposé en novembre 2004. Qu'est-ce qu'il dit, votre CV ?
C'est le CV classique, mis à jour, et donc directeur de site industriel.
C'est celui-là ? Bon. Alors, formation. Le diplôme, il arrive quand, le diplôme d'ingénieur ?
Il arrive quand, en 1975 ?
Vous êtes diplômé de Centrale ?
Ce qu'on appelle Centrale Nantes.
Quand vous avez ce diplôme, ce jour-là, vous souvenez du jour où vous avez eu votre diplôme ?
Oui.
Mais vos parents réagissent comment quand ils savent que vous voulez suivre cette voie-là ?
Content parce que pour eux, c'est une voie quand même qui garantit, je dirais, l'avenir. Sûrement. Bon, c'est... Sans commentaire, presque.
Donc 75, c'est donc le 76, c'est le début. Hein. Premier licenciement en 99. Oui. Mais donc jusque-là, ça nous fait quasiment 25 ans. Hein,
ça fait 25 ans, 15 ans dans un premier groupe. Et puis 10 ans dans la filiale du groupe automobile, équipementier d'ANA.
Responsable technique 76-85 au département machine tournante. 89-91, responsable qualité, membre du comité exécutif, management de 35 techniciens et du laboratoire d'essai des matériaux, directeur qualité et des études développement, membre du comité de direction, supervision des offres et des contrats techniques et de l'industrialisation, management de 200 personnes, président des CHSCT.
Ça, c'est les comités d'hygiène, sécurité et conditions de travail.
Voilà, c'est des termes très techniques, mais on comprend que voilà, vous étiez quelqu'un d'important. Vous êtes.
Oui, je pense que je le suis toujours.
Comment on arrive à être confronté, alors qu'on a le sentiment, j'imagine, d'être quand même en partie à l'abri, à la brutalité du marché du travail, avec un premier licenciement en 99, un licenciement économique. Hein.
Oui, alors, c'est un licenciement économique, et il faut bien dire que... avant 99, j'ai dû conduire un plan de restructuration complète des deux sites, parce que appartenant à un groupe international, à sa division industrielle, ils envisageaient de s'en séparer. Enfin, il y avait des objectifs extrêmement élevés à atteindre, dont les fameux 15% de rentabilité des investissements. J'ai donc proposé effectivement un plan de restructuration qui malheureusement aboutissait à également réduire en effectif. On avait fait des gains de productivité très importants. Le marché ne pouvait pas, la part de gâteau n'augmentant pas, une des solutions, bien sûr, était ramener les effectifs réduire les effectifs, au moins sur un site, de près de 20%. Donc, une vingtaine de personnes sur une centaine de personnes, quoi.
Alors, j'imagine que c'est une décision qui ne doit pas être facile à faire, de devoir proposer un plan de restructuration,
non, mais
donc
c'est,
un plan
c'est
social.
C'est ça ou la disparition totale. C'est toujours le même problème. On avait déjà attendu un peu trop longtemps, mais bon, les dirigeants européens avaient du mal à rentrer dans cette considération-là, parce que c'est un coût aussi. Puis,
c'est un coût.
C'est un coût, au sens que un plan social, c'est quelque chose qui coûte.
On hésite parce que c'est un coût.
Il y a des dispositions, oui. Et puis, pourquoi s'embêter avec ça ?
On s'inquiète pas du fait qu'on va mettre 20 personnes à la rue, c'est pas forcément le premier problème. Bon. Le premier problème, c'est de se dire que ça peut coûter, quoi.
Voilà, oui, exactement. Il fallait agir. Et l'arrivée d'un nouveau directeur général, qui venait du groupe, un Anglais d'ailleurs, C'est à cette occasion que j'ai proposé la chose, parce que de toute façon, on aurait été de plus en plus dans le rouge. Ça ne pouvait pas être autrement.
Donc, on sacrifie 20 personnes pour en sauver 80 ?
Oui, c'est malheureusement la loi, je dirais la loi presque économique, à condition que ce soit traité au mieux et le plus humainement possible, si le mot a encore un sens, hein, c'est vrai.
Vous veniez de me dire qu'il y avait eu...
Réduire pour reprendre.
Réduire pour reprendre. Mais vous veniez de me dire qu'il y avait eu un gain de productivité.
Oui.
S'il y a gain de productivité, ça se porte pas si mal.
À condition que les commandes rentrent. Parce qu'on peut avoir un gain de productivité, ça c'est le côté exécution, c'est-à-dire on fait plus...
La chienne qui éternue.
On fait plus avec moins, en quelque sorte. On produit plus avec moins de personnes, moins de ressources, disons, qu'elles soient humaines ou autres.
Tout ça, vous êtes dans votre bureau quand vous décidez tout ça, ou vous êtes en contact avec les salariés de cette entreprise ?
Très, très en contact.
Mais j'imagine alors...
Y compris avec malheureusement les gens dont on se sépare ensuite.
Quand vous devez proposer ces 20 noms quelque part, vous mettez déjà des visages sur ces noms. C'est pas juste des chiffres, on ne regarde pas au hasard.
Ça arrive sur la fin, c'est-à-dire la partie mise en application. Ça, c'est très, très difficile. C'est évidemment très, très difficile. Parce qu'il y a tout le côté humain. C'est-à-dire qu'on sait pertinemment qu'il y a un certain nombre là-dedans, surtout que c'est une vieille industrie, c'était une ancienne entreprise, aurait du mal à se reclasser, parce que c'était en 99 et on peut pas dire que l'emploi a été très, très porteur à ce moment-là. Que ces gens sont restés ancrés sur un savoir-faire qui est complètement dépassé et dont on n'a plus besoin, ils ne peuvent pas retrouver sur le marché de l'emploi à 40 ou 45 ans quelque chose. Alors formation, c'est pas simple pour des gens qui avaient souvent peu de qualifications. Ça, c'est pas simple pour ces quelques personnes en tout cas. Bon, ça reste toujours aussi douloureux. C'est simplement certains sourient parce qu'ils échappent à ces critères et puis d'autres plus. Hein. Genre, il n'y a pas de hiérarchie dans la douleur, mais malheureusement, il faut faire des choix.
Alors, dit un peu crûment, pour 20 d'entre eux, vous êtes le salaud, et pour 80 d'entre eux, vous êtes le sauveur.
Oui.
C'est ce qu'on dit dans le regard des gens à ce moment-là.
C'est vrai, sauf que je me sens entièrement responsable et j'assume complètement ce rôle-là, même s'il est demandé. Je veux dire, quand on prend une responsabilité, des responsabilités comme ça, on accepte aussi les mauvais côtés.
Je résume, 99, c'était le premier licenciement économique. 2001, la mise à pied pour faute grave et deuxième licenciement, donc, qui s'ensuit. Et c'est en janvier 2002 que vous retrouvez un nouvel emploi, cet emploi-là. Et donc un an et quelques plus tard que vous allez être à votre tour de nouveau licencié. Alors je le raconte par la voix de Marie-Annick. Hein. Nous continuons notre nouvelle vie jusqu'à la première alerte au 24 décembre. Les résultats de l'entreprise sont mauvais, voire très mauvais. La suite, tout a été mis en œuvre pour limiter les dégâts et il y eut une amorce de reprise quelques mois plus tard qui a redonné un peu d'espoir. Cet espoir, malheureusement, se fit sur le dos de 5 salariés de l'entreprise qu'il a fallu licencier. Il faut dire que lorsqu'on sait ce que représente un licenciement, on a du mal à faire la chose légèrement et sereinement.
Même scénario, je dirais, mais à une échelle beaucoup plus petite. Effectivement, j'ai été amené à conduire un licenciement de 5 personnes, mais c'était 5 sur 60, sur 70, ça fait beaucoup. Et c'est la répétition surtout qui est plus dure à supporter. Une fois, c'est déjà pas facile. Deux fois, ça devient à 2 ans de distance, c'est très pénible, quoi. C'est pas glorieux, tout ça. C'est quand même un échec.
En 75, quand vous avez passé ce diplôme, vous auriez imaginé un jour que vous pourriez être dans cette situation-là ?
Oui, mais sans en connaître ni l'intensité, ni la douleur, ni faute d'expérience. Je dirais qu'aujourd'hui, j'ai l'expérience. Mais elle n'est pas vendable, celle-là, malheureusement.
Travail, famille, Sarkozy. C'est la compassion pour les nantis. Mais si ta
t'as rien à offrir. Prépare-toi à souffrir au rendez-vous. Tu mets des faux fonds d'un trou. Il a des planches et même des clous. T'as intérêt à tenir debout. Car si demain tu sers à rien, on va te jeter comme un chien. Pour que tu puisses une fois dans la rue, épouvantail aux mains tendues, effrayer le salarié, fermer ta gueule, pas bouger.
Un soir dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Y'a pas grand monde dans le train, y'a pas grand monde sur le chemin, pas beaucoup d'ombre dans le lointain. Les cœurs qui grondent, des outils pleins les mains, ont disparu des images grises. C'est trop ringard, toutes ces conneries. Mais j'aime encore y croire. Je me fais juste mon petit grand soir.
Dans le vent, je rejoindrai les partisans de ceux qui ont de l'amour pour la vie. Un soir dans la nuit, il suffira d'un instant pour comprendre la force d'être unis.
Moi j'ai peur tout le temps. Alors c'est ça, les trucs physiques, c'est des angoisses au petit matin. Chaque matin, avant que le jour se lève, tous les matins, je suis en nage, avec des angoisses terribles. Et pourtant, je suis soignée pour... Alors, ça se voit pas, parce que l'humour étant la politesse du désespoir, ça se voit pas forcément. La peur de l'avenir, hein, la peur de pas y arriver, la peur de pas faire face. Et puis on est tout seul, hein, quand même, quelque part. Il faut qu'on trouve les solutions tout seul.
Ils ont osé, elle a osé raconter la honte, raconter le désespoir, raconter oui, la culpabilité aussi du chômage aujourd'hui, chômage des cadres qui gagnent évidemment, c'est vrai, dans les années 70, quand c'était les mines ou dans le nord, le textile, la sidérurgie dans l'est qui était frappé, oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Il faut moderniser, il faudra redéployer, il faudra recycler. Mais enfin, évidemment, les cadres à l'époque n'étaient pas concernés, bien évidemment. Ils avaient des compétences, ils avaient des diplômes, ils avaient des. Oh, allez, bon, une élite. Allez, il faut bien appeler les choses par leur nom, même si c'est le nom. Le mot qu'on ne prononce jamais en France, il pensait toujours le prononcer jamais. Et puis, peu à peu, eh bien, on a vu ces dernières années les élites, les cadres concernés par ce chômage, de plus en plus concernés par le chômage. Et c'est la raison pour laquelle on a commencé à en parler dans la presse magazine, c'est-à-dire la presse lue par les cadres. Auparavant, le chômage des ouvriers. Les vulnérables, ben après tout, ils étaient dans leur rôle. Et voilà que les choses ont l'air de... non pas de se retourner, mais de changer.
Je pense que c'est quand même une expérience, malgré tout, douloureuse, qui, si elle s'arrête maintenant, ça nous arrangerait, fait qu'on aura totalement changé plein de choses. Et Pascal me disait il n'y a pas très longtemps, il dit, même si je retrouve un emploi, je militerai. Et moi aussi. Ça, c'est clair que il faut arrêter le massacre, quoi. Contre le chômage, en parler, parce que ça reste aussi un peu un tabou. Et puis, toujours cette image du chômeur qui fiche rien, qui, en tout cas pour certains chômeurs, oui, ces gens qui ne foutent rien, on les paye à rien faire. Mais Pascal, il a travaillé pendant 27 ans. Donc, je considère que c'est un juste retour des choses, qu'on l'indemnise quand on le prive d'emploi. Enfin, ça me paraît simple.
Ce que vous dites aussi, c'est qu'il y a une image, on montre toujours l'image du gagnant, quoi. Voilà.
Ah, oui, c'est... dans une société de winners. De winners, de losers et de bouineurs.
C'est quoi le bouineur ?
Le bouineur en Anjou, quelqu'un qui bouine, c'est quelqu'un qui fait rien. Donc, j'avais un collègue qui disait toujours, il y a les winners, les losers et les bouineurs. Alors, le chômeur, il est loser et bouineur, ça fait beaucoup. Pour certaines personnes, en tout cas, quoi.
Vous le racontez assez bien. J'espère aussi avoir réussi à convaincre certains de mes contemporains que le chômage, au lieu d'être la sinécure qu'ils imaginent, est une sorte d'énorme cancrelat, aussi laid que celui de Kafka dans La Métamorphose, qui vous bouffe très lentement, mais très sûrement, qui vous désocialise, qui vous fait perdre confiance en vous, qui vous enlève cette indicible légèreté de l'être.
C'est ça qui me manque le plus, c'est l'indicible légèreté de l'être.
Et Pascal aussi, il a eu à faire des plans sociaux.
Oh oui, il n'a pas aimé. Un de ses anciens collègues lui a dit, mais vous êtes des RH, vous êtes là pour ça, quoi. Mais attends, non. Non, on n'en a jamais vraiment reparlé, mais je sais qu'il n'a pas aimé du tout. Je ne sais pas, j'étais pas dans sa peau. Moi, je serais incapable de le faire. Mais peut-être c'est ça la vie, c'est bien comme dans les Bibles. Hein. Tu es puni par là où tu as péché, c'est peut-être parce qu'il a fait un plan social qu'on en est là. Je dirais bon vent, parce qu'on est en Bretagne et que le vent porte.
Oui, il n'y a pas grand mot à dire, je crois.
Qu'est-ce que vous avez dit, vos amis, déjà ?
On ne sait pas quoi vous dire, mais on le vous dit sincèrement. Mais je suis sûre qu'il y a quelqu'un de très bien qui attend Pascal au tournant, c'est pas possible autrement.
Ça va arriver, tout, c'est qu'on ne sait pas dans quel temps.
Il y a forcément quelqu'un, quelque part, qui a besoin de toi.
Sûrement.
C'est pas possible.
Tout
ça de
le trouver.
Il y a aussi une chose à dire, c'est tenez-nous au courant.
Ah ben ça, il n'y a pas de problème. Aucun problème, surtout si c'est du positif. Mais bon,
ben, ce sera du positif.
Ah non, oui.
C'est un autre problème.
Diffusion du reportage d'Olivia Gesbert pour l'émission La Basse J'y suis de Daniel Mermet. À lire de Marie-Annick Terruin-Auville, itinéraire dans le cadre jetable aux éditions Amalté. Et sur le même thème, une pièce à ne pas manquer, au nœud de Dominique Witowski, ou l'errance d'un homme dans un bureau de l'ANPE, l'Agence Nationale pour l'Emploi. C'est au théâtre de l'Est parisien, du 24 février au 19 mars, avec les relâches le lundi. L'équipe de La Basse J'y suis, Antoine Chao et Yann Chouquet à la réalisation, assisté de Pascal Pascariello, et le chef répondeur, c'est Christophe Imbert. Le numéro de La Basse J'y suis, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. À la technique aujourd'hui, Olivier Ruotor et Éric Morin, et toutes ces informations sont disponibles sur le site de Radio France, à la rubrique émission. Là-bas, si j'y suis.